Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez RCJ, nous sommes le mardi 24 mars, il est 8h.
La matinale info, Didier Caramalo.
Au programme de cette matinale, le décryptage de l'actualité en Israël avec Miri Maman. Dans cette matinale aussi, l'essayiste et expert en géostratégie Patrick Martin-Jeunier sera notre invité. Nous reviendrons sur la situation au Moyen-Orient qui ne cesse jour après jour d'évoluer. Hier, alors que nous apprenions le report de 5 jours de toute frappe américaine sur des centrales électriques iraniennes, Donald Trump a évoqué des discussions très fructueuses avec l'Iran, alors que Téhéran, de son côté, affirme qu'aucune négociation n'a été engagée. Qui croire et comment comprendre ce qu'il se passe, nous le demanderons à Patrick Martin-Jeunier. Mais pour le moment, on ouvre tout de suite la matinale par le journal.
Le journal.
On vient de l'apprendre, de nouveaux tirs de missiles en provenance d'Iran ont visé le centre d'Israël à Tel Aviv. Plusieurs impacts liés à des débris d'interception ont endommagé bâtiments et véhicules. Selon le Magen David Adom, 6 personnes ont été légèrement blessées. Des fragments de missiles se sont aussi abattus à l'est de Tel Aviv et en Judée-Samarie, causant des dégâts. Pour le moment, aucun autre blessé n'est à déplorer dans l'immédiat. Parallèlement, l'armée israélienne a mené des frappes cette nuit sur la banlieue sud de Beyrouth, ciblant des positions du Hezbollah, après avoir appelé les civils à évacuer. Air France prolonge donc la suspension de ses vols vers Israël et le Liban jusqu'au 4 avril prochain. En raison du contexte sécuritaire à destination et de la fermeture de certains espaces aériens, la compagnie est contrainte de prolonger la suspension de ses vols, explique Air France dans un communiqué, ajoutant que les vols à destination de Dubaï et de Riyad sont suspendus jusqu'au 31 mars inclus. Le président du Parlement iranien a affirmé hier qu'il n'y avait eu aucune négociation avec les États-Unis, démentant l'existence de pourparlers évoqués par Donald Trump avec un dirigeant iranien non identifié. Pour rappel, le président américain avait insisté un peu plus tôt sur le fait que les États-Unis et l'Iran avaient trouvé des points d'accord majeurs. Or, le ministère des Affaires étrangères iranien a déclaré avoir reçu par l'intermédiaire de pays amis des messages sollicitant la tenue de pourparlers formulés par les États-Unis, mais a de nouveau assuré qu'aucune négociation n'avait été engagée depuis le début de la guerre. Donald Trump, de son côté, a pourtant assuré qu'un changement de régime, ce sont ses mots, était en cours en Iran, tout en menaçant, je cite, de continuer à bombarder allègrement si les négociations en cours avec un groupe de dirigeants iraniens échouaient. Il y a automatiquement un changement de régime en cours, dit le président américain, parce que tous les représentants du régime ont été tués. Israël affiche ses lignes rouges dans les négociations avec l'Iran, mais s'inquiète de l'optimisme de Donald Trump, soupçonné de vouloir conclure trop rapidement un accord. Benjamin Netanyahou a échangé avec le président américain, mais aussi avec J.D. Vance, pour rappeler les exigences israéliennes, notamment sur le nucléaire et les capacités balistiques iraniennes. En coulisses, des responsables israéliens redoutent un compromis jugé insuffisant, estimant que l'Iran pourrait chercher à gagner du temps. Ici, en France, le président Emmanuel Macron a mis en garde Israël contre toute occupation du Liban, estimant qu'aucune présence militaire ne peut garantir durablement la sécurité. Il a également rejeté toute logique d'escalade, appelant au respect du droit international. S'exprimant à Paris depuis l'Institut du Monde Arabe, le chef de l'État a réaffirmé la position française en faveur de la souveraineté des États dans un contexte de forte tension régionale. Aucune occupation, aucune forme de colonisation, ni ici, ni en Cisjordanie, ni ailleurs, ne saurait assurer la sécurité de qui que ce soit, a-t-il affirmé. Dans le reste de l'actualité, l'Union européenne et l'Australie ont signé un vaste accord de libre-échange à Canberra après 8 ans de négociations. Le texte porté notamment par Ursula von der Leyen et Anthony Albanese vise à renforcer les échanges commerciaux entre les deux partenaires. L'accord prévoit notamment un accès élargi mais encadré du bœuf australien au marché européen avec également l'entrée progressive de 25 000 tonnes de viande ovine et caprine australienne sur 7 ans ainsi qu'un soutien aux exportations industrielles européennes. Cet accord doit encore être définitivement validé par le Conseil européen avant son entrée en vigueur. Revenons au Moyen-Orient. Deux pétroliers battant pavillon indien et transportant du GPL ont traversé le détroit d'Ormuz, a annoncé le ministère des Transports maritimes indien. Ces passages constituent une exception, Téhéran ayant en grande partie interrompu le trafic maritime dans le détroit à la suite des frappes israélo-américaines sur l'Iran. Et à ce propos, pour finir, le baril de Brent repasse au-dessus des 100 dollars, atteignant 102,84 dollars, après une hausse de presque 3% au lendemain d'une chute de plus de 10% intervenue après la décision du président américain Donald Trump de reporter de nouvelles frappes contre l'Iran. De son côté, le West Texas Intermediate a également progressé, gagnant 3,5% pour s'établir à un peu plus de 91 dollars, dans un contexte de forte, très forte volatilité des marchés énergétiques liés aux tensions géopolitique du Moyen-Orient. Vous écoutez RCJ, il est 8h05. Dans quelques instants, on fait le tour de l'actualité en Israël avec Miri Maman. Restez avec nous.
En Israël, des millions d'Israéliens vivent aujourd'hui au rythme des sirènes et des abris. Dans l'urgence, le FSJU agit aux côtés de l'ONG israélienne Latet, acteur majeur de l'aide humanitaire dans le pays. Il faut renforcer la distribution de colis alimentaires et soutenir les personnes les plus vulnérables. Latet et le FSJU peuvent le faire grâce à une logistique déployée dans les abris en coordination avec les autorités civiles. Pour poursuivre et intensifier ces actions, nous avons besoin de vous. Soutenez le fonds d'urgence FSJU La tête. Faites un don dès maintenant sur israel.fsju.org.
Médecin francophone, vous pensez exercer en Israël? Ne manquez pas le MEDEX France le 3 mai 2026 à Paris. Au programme, dépôt de dossier pour la licence médicale israélienne, notaire israélien et rencontre avec des médecins déjà installés. Même si votre alia n'est pas pour tout de suite, venez vous informer. Inscription obligatoire, imap.org.il. MEDEX France, le 3 mai à Paris.
Bain et déco, parce que votre intérieur mérite l'excellence. Salle de bain d'exception, cuisine et dressing sur mesure, de la conception en passant par la rénovation complète de votre appartement. Nous sélectionnons et représentons les plus grandes marques haut de gamme et nos artisans qualifiés subliment chaque détail avec exigence, précision et élégance. Découvrez nos showrooms spacieux à Bastille, Saint-Germain et Boulogne et notre toute nouvelle adresse d'exception de 450 m² au 9 avenue Victor Hugo, Paris 16e. Prenez rendez-vous sur bainetdeco.fr. Bain et déco, l'art de sublimer votre intérieur.
Vous écoutez RCJ, il est 8h07, nous sommes maintenant avec Miri Maman, bonjour.
Bonjour Didier, bonjour à tous.
On commence par la dernière attaque iranienne sur le centre d'Israël, plusieurs impacts ont été recensés.
Oui, au moins 4 quartiers de Tel Aviv ont été touchés dans cette dernière attaque et au moins 6 personnes ont été légèrement blessées dans le tir ce matin vers 7h, heure locale. Les dégâts sont impressionnants. Il s'agit, selon les dernières informations qui parviennent des lieux des impacts d'un missile à fragmentation. Vous savez, celui qui se sépare en plusieurs bombes. Plusieurs immeubles ont donc été endommagés à Tel Aviv, mais aussi dans la localité de Rosh Ha'in. C'est toujours dans le centre du pays, mais plus au nord de la ville de Tel Aviv. Il y a eu aussi des impacts en Cisjordanie, dans la région de Samarie. Là, personne n'a été blessé. Plusieurs véhicules ont également pris feu. Un rappel qu'en cas d'alerte, il faut absolument sortir de sa voiture et s'abriter. Cette nuit aussi, Israël a été visé par le régime iranien. Aucun blessé n'a été recensé. Et puis là, puisque c'est du direct, il y a des sirènes d'alerte dans le sud du pays, là encore, en raison d'une attaque iranienne.
Et l'enquête sur les missiles sur Arad et Dimona ont conclu à un échec du système de défense Front de David.
Oui, alors pour comprendre, Didier, ce qu'il s'est passé, il faut savoir qu'Israël possède 3 couches de défense antiaérienne. Le dôme de fer qui est activé pour les missiles et roquettes de courte et moyenne portée. La fronte de David qui est en fait le système intermédiaire pour les moyennes et longues portées. Et Arrow pour les missiles de plus longue distance, y compris dans l'atmosphère. Alors dans ce cas-là, de Arad et de Dimona, c'est la fronte de David qui a été activée. Samedi, Tzahal aurait décidé donc d'activer ce système plutôt que celui de Arrow contre les 2 missiles pour économiser les stocks d'intercepteurs Arrow, spécifiquement conçu, on l'a dit, pour l'interception de missiles à longue distance. Mais le système Front de David n'a pas réussi à intercepter les 2 missiles iraniens qui se sont donc abattus de plein fouet sur les 2 villes du Sud. Un échec dû, selon Tzahal, à une défaillance. Il faut aussi rappeler, c'est important, que le système de défense israélien est efficace à plus de 92%. C'est évidemment beaucoup, mais cela veut dire que statistiquement, il y a des attaques qui ne sont pas interceptées par le système antérieur. anti-missiles israéliens. Et même quand les missiles sont interceptés avec succès, il y a évidemment ces fameux débris qui eux aussi sont dangereux et peuvent créer des dégâts. Et puis les bombes à fragmentation sont elles quasiment impossibles à arrêter. La protection civile ne cesse d'alerter les citoyens sur la nécessité de se mettre à l'abri pour éviter d'être touchés dans ces attaques.
Enfin, après de longues heures de silence, le Premier ministre israélien a réagi à l'annonce de Donald Trump sur les négociations avec l'Iran.
Oui, Benjamin Netanyahou a en effet attendu plusieurs heures hier pour réagir officiellement dans une déclaration vidéo. Il a affirmé avoir discuté au téléphone avec le président américain Donald Trump. Le Premier ministre israélien a affirmé qu'Israël, je cite, « protégera ses intérêts vitaux en toutes circonstances ». Dans la conversation entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump, le président américain aurait assuré qu'il était possible de tirer profit des succès de l'opération menée par Israël et les États-Unis en Iran pour obtenir un accord avec le régime des Mollahs, un accord qui permettrait d'atteindre, toujours selon le président américain, les objectifs de guerre des deux pays. Benjamin Netanyahou a tout de même insisté sur le fait qu'Israël continue de frapper durement le régime iranien et le Hezbollah au Liban, même s'il y a des négociations entre Washington et Téhéran. Le Premier ministre qui a voulu rassurer en fait les Israéliens qui craignent qu'un accord prématuré avec Téhéran ne compromette la sécurité d'Israël et que la guerre menée depuis plus de 3 semaines soit vaine. Il faut aussi se dire qu'en Israël, on ne croit pas aux progressions dans les négociations avec l'Iran. On estime qu'on n'est pas dans une phase décisive comme l'aurait annoncé hier Donald Trump.
Merci beaucoup Miri Maman pour toutes ces précisions. Vous écoutez RCJ, il est 8h11. Dans un instant, nous allons tenter de démêler les fils de l'actualité américano-israélo-iranienne. Hier encore, les pays du Golfe ont été la cible de tirs de missiles et de drones. À Téhéran, des explosions ont retenti, tandis que l'armée israélienne a annoncé avoir lancé une large vague d'attaques. Ce matin, Tel Aviv s'est réveillée sous des débris de missiles. Voilà donc 3 semaines que la guerre sévit. L'Iran se dit prêt à poursuivre l'escalade militaire et la population israélienne vit sous les bombes. On parle avec l'essayiste expert en géostratégie Patrick Martin-Jeunier.
Israël est sous le feu des missiles. À chaque alerte, une vie peut basculer. Jour et nuit, les équipes du Magen David Adom interviennent sans relâche. Ambulances, secouristes, banques du sang, sous les sirènes, ils sauvent des vies. Aujourd'hui, ils ont besoin de vous. Votre don permet d'équiper, d'intervenir, de protéger. Face aux missiles, chaque seconde compte. Face à l'urgence, chaque don sauve. Faites un geste maintenant sur mda-france.org. MDA.
MDA France.
Association au service de la vie.
Vous avez plus de 60 ans et habitez Paris ou l'Île-de-France? Vous avez besoin d'aide pour réparer une fuite, gérer votre administratif, vous déplacer ou vous sentir en sécurité à votre domicile? Le kiosque solidaire vous met en relation avec des professionnels fiables et bienveillants et vous accompagne dans la résolution de vos problèmes du quotidien. Plus de stress, plus d'arnaques. Contactez le kiosque solidaire, service du FSJU, soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah au 01 42 17 10 80. 01 42 17 10 80. Parce que votre confort est au cœur de notre engagement.
Le cancer colorectal touche plus de 47 000 femmes et hommes par an en France, souvent après 50 ans.
Entre 50 et 74 ans, le dépistage, c'est le meilleur moyen de s'assurer qu'il n'y a rien ou de traiter un cancer colorectal à un stade précoce. Alors, dès 50 ans, faites le test de dépistage tous les 2 ans. Vous vous en remercierez.
Pour vous procurer le test, vous pouvez le commander en ligne ou le demander à votre médecin, pharmacien ou infirmier.
Plus d'infos sur jefaismondépistage.cancer.fr avec l'Institut National du Cancer.
Merci d'avoir choisi RCJ, il est 8h13. Alors que nous entrons dans la 4e semaine de la guerre, Tel Aviv se réveille sous des débris de missiles et Téhéran a franchi un nouveau palier en visant ce week-end la base américaine de Diego Garcia à plus de 4000 km de ses côtes, en plein cœur de l'océan Indien, puis en tirant un missile sur la ville israélienne de Dimona, proche d'un réacteur nucléaire et d'un important centre de recherche. Nous sommes maintenant avec l'essayiste Patrick Martin-Jeunier. Bonjour.
Bonjour.
Commençons peut-être tout de suite par ces frappes iraniennes et surtout par ce qu'elles ont de surprenant. Téhéran a toujours affirmé que son programme balistique ne comportait pas de vecteur d'une portée de plus de 3000 km. Or, ils ont envoyé ce samedi 2 missiles balistiques en direction d'une base américaine, comme je le disais, à plus de 4000 km. Comment comprendre cette frappe? Et surtout, peut-on craindre que l'Iran ait des capacités secrètes inconnues de nous?
Enfin moi, ça ne m'étonne pas personnellement parce qu'effectivement, ils ont cette capacité. En envoyant des missiles vers cette base de Diego Garcia, très clairement, eh bien, l'Iran veut signifier au monde entier qu'il peut atteindre des distances très très importantes, notamment en plein milieu de l'océan Indien, mais pas uniquement. En disant que ces missiles peuvent atteindre une distance de 4 000 km, ils sont en train de nous signifier que ces missiles pourraient atteindre également d'autres villes en Europe. C'est ce qu'a dit le Premier ministre israélien. Ces missiles sont susceptibles d'atteindre des villes telles que Rome, Paris, Londres. Donc oui, une capacité très très importante. C'est pour montrer que l'arsenal nucléaire iranien n'est pas détruit, qu'il a la possibilité d'avoir une capacité de nuisance très très importante et de viser très très loin. C'est un avertissement très clair aux Américains, mais aussi aux Européens, semble-t-il.
Donc ces frappes iraniennes ne constituent pas seulement une menace psychologique.
Ah non, oui, il avait dit, effectivement, parce que psychologique, il y a une dissuasion. Bien évidemment que je ne sais pas si l'Iran oserait frapper les pays européens, mais non, ce n'est pas une menace psychologique, c'est une menace réelle, militaire, qui montre bien qu'au final, cette guerre n'est pas uniquement une guerre cantonnée dans la région. Vous savez que l'Iran a dit qu'il pouvait menacer que les pays du Golfe, il pourrait y avoir une catastrophe régionale, mais ce n'est pas uniquement effectivement uniquement psychologique, c'est pour montrer que l'Iran a la capacité de pouvoir envoyer ses missiles très très loin, pas uniquement en Israël, pas uniquement dans la région, en Arabie Saoudite ou ailleurs pour les détruire des installations américaines, mais a une capacité de frapper ailleurs, ce qui montre bien que le régime iranien des mollahs est une menace non seulement régionale, mais également mondiale.
Ce que vous nous dites me conduit à vous demander si plus qu'un moyen de survivre, cette guerre peut-elle devenir pour l'Iran un moyen d'accroître sa force? C'est-elle la possibilité pour Téhéran de se fortifier?
Oui, en fait, je crois que l'Iran est dans une fuite en avant. Le régime des mollahs veut continuer, il veut survivre. Il est en train de montrer qu'avec ses frappes, non seulement il est toujours présent, parce que l'objectif de Donald Trump, c'était bien évidemment de détruire le régime des mollahs. Cette guerre a 3 semaines. Le régime des mollahs, même considérablement affaibli, même si la direction de ce régime militaire et religieux a été décapitée, eh bien oui, c'est une capacité de dire, nous avons la possibilité d'aller plus loin. Il faudra donc faire attention parce que non seulement nous sommes toujours là, on ne va pas nous détruire, nous continuons à exercer une puissance au niveau régional, mais et que nous avons aussi cette capacité de nuisance au niveau mondial. Et enfin, en ayant bloqué le détroit d'Ormuz, l'Iran montre qu'il a une capacité de détruire considérablement le système économique international, notamment l'énergie. Je rappellerai en lisant les nouvelles ce matin que certains pays commencent à rationner l'essence, le carburant, notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande, dont vous savez qu'ils dépendent considérablement du détroit d'Ormuz pour le pétrole et le reste. Et enfin, la Slovénie également, chez nous, a commencé à rationner l'énergie. Et le Vietnam lui-même a décidé de suspendre les vols intérieurs, faute de kérosène. Donc on voit bien aujourd'hui que nous arrivons à un point où l'Iran veut démontrer au monde entier qu'il a une capacité de nuisance non seulement sur le plan militaire, mais également sur le plan énergétique et qu'il a la possibilité, eh bien, de perturber considérablement le trafic commercial mondial.
Donald Trump a évoqué hier des discussions très fructueuses avec l'Iran. D'aucuns l'accusent même de vouloir maintenant trouver une porte de sortie à tout prix, alors que Téhéran, de son côté, par le biais du président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, affirme qu'aucune négociation n'a été engagée. J'ai d'abord envie de vous demander qui nous faut-il croire, et ensuite, une quelconque forme de négociation réelle est-elle vraiment possible?
Écoutez, oui, vous l'avez dit, le président du Parlement iranien, Mohammed Bakar Khalibaf, comme vous l'avez dit, a parlé d'une opération psychologique, d'une fake news s'agissant des négociations qui pourraient être engagées avec Donald Trump. Néanmoins, il y a quand même certaines indications, même si on ne sait pas toujours quelle est la stratégie de Donald Trump, il reste dans le flou. Eh bien, il semblerait que les États-Unis, pour différentes raisons, notamment des raisons de politique intérieure, mais aussi des raisons d'augmentation du prix du carburant aux États-Unis, eh bien, les États-Unis seraient enclins à rouvrir un chapitre de négociation. Alors, je ne sais pas si c'est fructueux, mais en tout cas, il y a des rumeurs qui courent, ou même, oui, certaines affirmations de la part de la Maison-Blanche, que des négociations pourraient intervenir cette fois-ci au Pakistan. On parle de l'arrivée de J.D. Vance, le vice-président américain, à Islamabad, de très prochainement, ville dans laquelle pourrait se rendre également Jared Kushner, qui est le gendre de Donald Trump, et également Steve Witkoff, pour tenter de mettre un terme à cette guerre dont on voit qu'elle n'a pas abouti à la chute du régime des Mollahs. Et aujourd'hui, Donald Trump, en effet, essaye, selon moi, de sortir par le haut de ce conflit en disant d'une part que finalement son objectif a réussi à affaiblir le régime des Mollahs et d'autre part qu'il faut y mettre un terme pour des raisons économiques. Il voit bien que le trafic de carburant, le pétrole est considérablement perturbé, qu'il y a une augmentation des prix du carburant, notamment aux États-Unis. Donc je pense qu'il essaye de trouver une porte de sortie, mais cela ne l'empêchera pas, comme il l'a dit, de continuer à frapper des sites stratégiques en Iran.
Il y a donc effectivement la possibilité de négociation entre les États-Unis et l'Iran au Pakistan, à Islamabad, comme vous le rappeliez. Donald Trump qui a déclaré qu'il avait ordonné aussi au Pentagone de reporter toutes les frappes militaires prévues contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes pour une période de 5 jours. Je l'évoquais à l'instant, mais je vais vous poser la question directement. Donald Trump est-il en train de faire volte-face? A-t-il compris qu'il n'arrive pas à résoudre ce conflit aussi rapidement que prévu? Je rappelle que le président américain avait publié samedi soir un message sur les réseaux sociaux dans lequel il fixait un ultimatum de 48 heures aux autorités iraniennes pour ouvrir pleinement et sans menace le détroit d'Ormuz, sous peine, je cite, d'anéantir les centrales électriques iraniennes. Alors Donald Trump a-t-il perdu la face ?
Je ne pense pas qu'il ait perdu la face, mais il s'aperçoit qu'il y a vraiment des difficultés très importantes au niveau, encore une fois, de l'économie mondiale. Et lui, vous savez, Donald Trump, c'est avant tout un businessman. Il veut des accords, il veut ce qu'il appelle faire un deal. Faire un deal, c'est pour montrer qu'il a gagné quelque chose, il n'accepte pas de perdre. Je ne pense pas qu'il y ait volte-face, mais il s'aperçoit effectivement qu'au bout de 3 semaines de guerre, l'objectif de faire chuter le régime des Mollahs n'est pas atteint. Vous savez, dans une guerre, lorsque vous vous lancez dans une guerre, il faut un objectif, une stratégie. Quelle était la stratégie, encore une fois, faire chuter ce régime? Et on s'aperçoit que le régime criminel mafieux des Mollahs est toujours là, qu'il ne s'est pas effondré et qu'il continue à pendre d'ailleurs certains de leurs ressortissants. Les manifestants sont réprimés, assassinés, pendus. Donc ce régime toujours aussi criminel reste debout. Même s'il y a aujourd'hui une fracture dans ce régime entre les Mollahs, entre le président Pezeshkian, les gardien de la révolution, ce régime est fragilisé mais il est toujours là, et donc je pense que Donald Trump, effectivement il regarde l'augmentation du prix des carburants aux États-Unis et comme vous le dites, il s'est entretenu avec Benjamin Netanyahou, donc premier ministre d'Israël, lequel ne serait pas contre la conclusion d'un accord, parce que Israël est quand même durement touché, des missiles viennent d'atteindre le centre de Tel Aviv cette nuit, la centrale nucléaire de Dimona également, un missile était tombé à proximité. La situation est extrêmement dangereuse. Et donc, le Premier ministre israélien a dit d'accord, éventuellement pour un accord, à condition qu'il préserve les intérêts vitaux d'Israël. Je crois qu'il y a quand même aujourd'hui des indications, des indices qui laissent supposer que des négociations pourraient intervenir pour mettre un terme, au moins provisoirement, à ce conflit.
Dans le même temps, ici en France, à Paris, Emmanuel Macron a martelé qu'aucune occupation, le mot est de lui, ne saurait assurer, je cite, la sécurité de qui que ce soit. Autrement dit, il a adressé un clair avertissement à Israël et à son opération terrestre au Liban. Le président français voit-il juste dans l'intention de l'État hébreu ?
Écoutez, moi je crois qu'il ne faut pas parler d'occupation, je crois que le principal danger pour Israël aujourd'hui dans le sud Liban, c'est le Hezbollah, comme vous savez, qui est un proxy de l'Iran. On sait très bien que l'État libanais est complètement défaillant, que c'est cette organisation terroriste qui obéit aux ordres de l'Iran qui constitue véritablement une menace pour Israël. Donc très clairement, je crois que tant que cette menace ne sera pas éliminée, eh bien il faudra tout faire pour éliminer le Hezbollah, même si ce sera extrêmement difficile. L'objectif d'Israël, me semble-t-il, n'est pas une occupation, c'est de constituer une zone tampon, une zone de sécurité pour éliminer toutes ces menaces terroristes pour Israël, notamment le fait de tirer des missiles, des roquettes dans le nord d'Israël. Donc l'objectif, c'est de constituer une zone tampon de façon à assurer la sécurité d'Israël et notamment jusqu'au fleuve Litanie qui, comme vous savez, est situé à une trentaine de kilomètres de la frontière d'Israël. Donc non, je ne pense pas qu'on puisse parler d'occupation, mais Israël a en effet mobilisé plusieurs milliers de soldats pour tenter de sécuriser cette zone dont on parle depuis longtemps, puisque c'est une zone qui est complètement hors de contrôle des autorités du Liban, notamment les autorités étatiques. Donc là, il y a en effet une préoccupation pour Israël. Le terme occupation est peut-être trop fort. Je pense qu'il s'agit avant tout de reconstituer et d'assurer la sécurité d'Israël en tentant d'éliminer les sites du Hezbollah qui continuent à produire des missiles, des roquettes pour les tirer sur le nord d'Israël.
Oui, l'objectif premier de Benjamin Netanyahou est bien de sécuriser Israël. Et je précise que le Premier ministre israélien dit avoir prévenu Donald Trump qu'il continuera ses frappes sur l'Iran et le Liban.
Oui, absolument, parce que véritablement encore, on sait que l'Iran est une menace existentielle pour Israël. C'est un État qui officiellement veut toujours la destruction d'Israël. C'est un État qui continue à tirer des missiles à travers tous ses proxys, notamment le Hezbollah. Donc effectivement, le Premier ministre israélien a clairement dit que tant que le danger perdurerait, il continuerait à tirer sur ces sites qui constituent un danger pour Israël. Donc l'Iran, naturellement, continuer à viser des sites de l'Iran, continuer à éliminer des personnes, des dirigeants du régime iranien qui constituent eux aussi un vrai danger, mais aussi le Hezbollah au sud du Liban. La difficulté de le sud du Liban, c'est que le Hezbollah est complètement implanté, a un rôle très important sur le même modèle que le Hamas à Gaza, à savoir que c'est une organisation non seulement militaire terroriste, mais aussi qui dirige l'administration locale, qui dirige les hôpitaux, des écoles, et donc il est très implanté. C'est une action manifestement au long cours.
Et ma dernière question, Patrick Martin-Jeunier, concernera le peuple israélien. Comment la population de l'État hébreu vit-elle cette énième guerre ? Depuis 3 semaines, les Israéliens ont retrouvé de nouveau la routine de l'urgence, doivent faire face à la fermeture prolongée des écoles, doivent s'enfermer régulièrement dans les abris antiaériens, les familles doivent accepter l'incorporation, encore une fois, des réservistes. Est-ce que cette fatigue, est-ce que cette peur conditionne leur perception et donc leur acceptation ou non de Benjamin Netanyahou et de sa politique ?
Écoutez, moi je crois que le peuple israélien est absolument résilient. Ils sont habitués au danger depuis la création de l'État d'Israël. Ils savent ce que c'est que la guerre, ils savent se défendre, ils ont une armée très puissante, ils ont des abris. Ils ont cette capacité de résistance qui est très très importante, de résilience. Et je crois qu'ils savent faire face avec courage à cette adversité, notamment lorsque des missiles arrivent jusqu'à Tel Aviv. Et donc partout à Jérusalem, également des risques d'attentats partout. Et donc ils ont cette capacité de résistance, de résilience qui est très très importante. Je pense que le peuple israélien soutient l'action militaire de Benjamin Netanyahou, d'autant plus depuis les attentats du mois d'octobre, les meurtres par le Hamas des Israéliens du mois d'octobre 2023. Donc on voit bien effectivement que là il y a cette capacité de résistance, non pas de fatalité, mais ils savent que c'est le prix à payer pour continuer à exister. Et là, c'est extrêmement courageux. J'ajouterais qu'il y a des élections législatives bientôt en Israël. Et donc, je pense que ce sera l'heure de vérité de Benjamin Netanyahou. On verra, effectivement, il y aura un débat électoral. Israël est une démocratie. Et je crois que finalement, il y aura un vrai débat sur la place publique lors des élections législatives qui se déroulent, je crois, au mois d'octobre 2026.
Merci beaucoup Patrick Martin-Jeunier pour toutes ces explications. Il est 8h27, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve à 11h pour Essentiel, la mensuelle de l'école juive. Aujourd'hui, émission préparée par David Ebidia et présentée par Laurence Goldman. Le thème, ce sera l'intelligence artificielle à l'école. Et ensuite à midi, comme tous les jours, RCJ Midi présenté par Laurence Goldman. Merci de votre fidélité, merci d'avoir choisi RCJ et à demain.